Nous penchons cette semaine sur les difficultés de nos relations humaines. Nous avons souligné que cette difficulté doit être franchie, que ces difficultés doivent être franchies, que nous avons à changer, que nous avons à progresser, à évoluer dans ce domaine. Et que Dieu a une exigence forte vis-à-vis de nous lorsque nous rencontrons dans la loi de Moïse ces deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Jésus n'a pas voulu d'aucune manière séparer ces deux commandements qui vont de pair. Jamais l'un sans l'autre. L'exigence est très grande. Autrement dit, si nous sommes de bons petits chrétiens qui faisons notre prière régulièrement, qui allons à la messe le dimanche, qui mettons un cierge au pied de la Vierge Marie pour des intentions de prière, tout cela est fort bien, mais si nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes, cela ne sert de rien. Nous perdons le bénéfice de cet amour que nous avons pour Dieu parce que nous ne le mettons pas en œuvre comme il nous l'a demandé. Essayons de voir, dans ce contexte de relations difficiles que nous pouvons avoir, comment nous pouvons manifester cet amour du prochain. D'abord, il faut faire toutes ces démarches vis-à-vis de l'autre ou des autres avec une grande humilité et une grande simplicité. Si nous allons vers eux comme des donneurs de leçons, comme ceux qui ont la solution des problèmes, comme ceux qui réclament des changements, notre démarche est déjà fichue d'avance, elle ne portera pas de fruits et elle n'est pas une démarche d'amour. Nous sommes à côté de la plaque. Cette démarche, ces démarches, doivent être réellement des démarches d'amour, c'est-à-dire des démarches qui vont être habitées par la bienveillance, par le respect de l'autre tel qu'il est. La bienveillance, c'est poser notre regard sur quelqu'un en voulant prioritairement voir le bien, les biens qui sont dans cette personne. C'est vouloir du bien aussi à cette personne. Ça, c'est la condition nécessaire pour qu'une démarche que nous pourrions appeler peut-être de transparence, une démarche d'éclaircissement, une démarche de mise en lumière, puisse éventuellement réussir. À partir de là, nous avons non pas à arriver vers l'autre avec la liste de tout ce que nous lui reprochons, ce pourquoi il nous agace, mais nous avons à nous approcher de l'autre pour comprendre ce qu'il est, pour comprendre pourquoi il agit de telle et telle manière, pour essayer avec lui de regarder les difficultés en face. Il y a fondamentalement une attitude qui est très importante dans ce genre de tentative, je dirais, c'est l'écoute véritable. Se mettre à écouter l'autre, lui demander de nous dire les choses et ne pas l'interrompre tous les deux mots, comme on voit malheureusement des protagonistes dans un débat télévisé qui s'interrompent sans arrêt, qui n'écoutent pas l'autre, qui n'en ont rien à faire de l'opinion de l'autre, qui veulent seulement imposer la leur. Si nous sommes dans cet état d'esprit, c'est fichu d'avance. Il nous faut écouter l'autre jusqu'au bout, dans tout ce qu'il a à dire. Et peut-être que ce qu'il a à dire ne va pas nous laisser de marbre. Parce que peut-être, dans ce qu'il a à dire, il y a des reproches vis-à-vis de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Ne l'interrompons pas, laissons-le aller jusqu'au bout. Et une fois que l'autre aura pu ainsi déverser ce qui pèse dans son cœur, nous pourrons alors, peut-être plus facilement, faire de même à son égard. chacun aura pu exprimer sans amertume, sans colère, ce qui lui pèse dans la relation. Ce qui fait que notre relation n'est pas claire, n'est pas évidente, n'est pas douce et agréable. Et à partir de là, s'il y a un véritable échange, une véritable écoute mutuelle, nous aurons déjà fait un grand pas. Même si, dans ce premier temps, rien encore n'a changé.
Au ras des pâquerettes, Étienne Dallaire.
Nous avons sans doute tous les uns et les autres à apprendre à écouter réellement. Apprendre à écouter l'autre, m'expliquer ce qui le fait souffrir dans ma façon de faire. Je dois essayer de ne pas considérer ce qu'il me dit comme une mise en accusation, mais au fond, comme l'expression de son amour pour moi. S'il a été tant affecté par ma conduite, c'est qu'il m'aime. Et c'est également par amour qu'il me confie sa peine. Car il désire rétablir un vrai dialogue, franc et paisible, avec moi. Savoir écouter, mais aussi oser parler. Si l'autre semble disposé à m'écouter, je ne dois pas hésiter à dire ce que j'ai à dire. Je n'arriverai pas à le convaincre de ma bonne foi, mais ça n'est pas le but. Le but est qu'il comprenne pourquoi je réagis de telle manière, pourquoi j'ai vis-à-vis de lui tel ou tel comportement. Il faut qu'il saisisse derrière mes paroles le désir qui est le mien de mettre un terme à notre mésentente, à notre discorde. Et après cette écoute vraie, mutuelle, je pense que nous pouvons tenter une démarche supplémentaire, un pas de plus, dans le pardon. Voilà une dimension qui n'est plus très à la mode, une dimension qui est prise comme un acte de faiblesse, demander pardon, un acte humiliant, un acte de pauvre. Eh bien, tant mieux si nous sommes faibles, humiliés et pauvres. Il y a cette fameuse phrase de Pierre qui demande à Jésus, « Mais quand quelqu'un a mal agi à mon égard, est-ce que je dois lui pardonner jusqu'à 7 fois de suite ?» Vous voyez l'agacement, finalement, parce que c'est répétitif. Et Jésus, vous le savez, lui répond non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois, c'est-à-dire à l'infini. Nous avons à nous demander pardon mutuellement à l'infini. Alors je sais que c'est fatigant. Quand on a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois la démarche, et que les choses ne changent pas, et qu'il faut encore et encore revenir dessus, on est un peu découragé. Et c'est là qu'intervient une dimension qui est très importante dans l'amour, c'est la patience. L'amour, dit Paul, prend patience. Oui, parce que la patience est encore un acte d'amour. Sinon, on pourrait tout envoyer balader et dire « Écoute, ça fait 2 fois, 3 fois que je te demande pardon. Tu n'acceptes pas ma démarche et tu ne la fais pas non plus dans l'autre sens. Donc, basta, terminé, nous coupons la relation et je vais passer à autre chose. » Mais ce serait un échec pour les deux. Et ce genre d'échec relationnel n'est pas sans avoir des implications par la suite. On ne se relève pas si facilement d'un échec relationnel, même si nous pouvons mettre sur l'autre toute la faute. Et cette attitude est en général erronée parce que un défaut de relation ne peut jamais venir à 100% de l'un des deux protagonistes. Jamais.